Et chaque fois que j'entends cette chanson d'Aznavour, les comédiens, je sais pas vous, mais moi je pense à une scène de cinéma. Une scène de Truffaut, dans Tiré sur le pianiste, Truffaut qui disait d'Aznavour que sa silhouette gracile le faisait ressembler à Saint François d'Assise. Truffaut qui voulait même lui consacrer un documentaire, mais qui lui a offert, c'est encore plus beau, ce drôle de film de gangster dans lequel il s'appelle Charlie Colère. Je pense à cette scène la nuit, lorsqu'il est aux côtés de Léna, Marie Dubois, et qu'il se dit je compte jusqu'à 10 avant de l'embrasser, les mains derrière le dos, il compte jusqu'à 1, 2, 3, mais en bon amoureux qui tremble, il ose pas. Quel personnage quand même, avec sa dégaine de petit macho plus fragile qu'il n'y paraît, avec son attitude, assis au piano dans un dancing un peu miteux, marchant dans la rue en noir et blanc, ou alors couché aux côtés d'une femme dans de beaux draps. Un personnage dans tous les sens du terme, notable, au point qu'on s'en souvient encore aujourd'hui, chaque fois qu'on entend les comédiens, quand ils chantent « Si vous aimez voir trembler les amoureux, poussez la toile, entrez vous installer, sous les étoiles le rideau va se lever, quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. »
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui est lui aussi un sacré personnage. 16 ans après Embrasser...
Enfin, incomparable avec la personne dont vous parliez avant.
16 ans après Embrasser qui vous voudrait, son nouveau film Voyez comme on danse en ressuscite la plupart des personnages dont le quotidien se trouve bouleversé par une série d'événements dont on ne dira rien.
C'est gentil.
Évidemment, entre faux départs, malentendus, tromperies et filatures. Bonjour Michel Blanc.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait un bon personnage pour vous? Là, c'est autant au spectateur qu'au metteur en scène et au scénariste que je parle.
Un bon personnage, c'est très difficile à définir. Alors, en tant qu'acteur, je vais vous dire ce qui fait que j'accepte un rôle, c'est quand ce n'est pas un personnage monocolore ou monocorde. C'est-à-dire que vous avez, c'est comme dans les After Eight, vous avez la couche de menthe à l'intérieur. C'est-à-dire que le personnage, il a l'air d'être quelque chose et puis il est plus que ça. Et là, il y a du travail à faire. Là, il y a de la recherche. Il y a de la richesse à trouver. Et ça, c'est passionnant. Quand vous avez un personnage qui est sur une seule couleur et qui fait toujours à peu près la même chose, c'est assez ennuyeux et à regarder et à faire.
Faut-il qu'il ne vous ressemble pas ?
Alors, j'aime bien, moi, que les personnages soient le plus différent possible de moi, parce que c'est ça le travail d'acteur, c'est pas de monter sur scène, par exemple, ou au cinéma, et de dire « regardez-moi », j'ai pas envie de ça, j'ai envie de dire « regardez ce personnage-là ». Et il m'est arrivé de faire des personnages qui ne me ressemblaient vraiment pas du tout, Monsieur Hir, ou dans l'exercice de l'État avec Pierre Scheler, où je fais un directeur de cabinet, voilà, et ça c'est passionnant.
Je vous pose la question aussi, parce que vous jouez, Michel, dans la plupart de vos films, est-ce qu'on écrit pour soi comme on écrit pour les autres?
Non, j'aime pas jouer dans mes films. Alors ça paraît...
C'est un peu raté, là.
Je suis très peu dans celui-là, vous avez remarqué. Je suis d'une absence extrêmement présente.
On ne dira rien.
Non, on ne dit rien. Mais voilà. Non, j'ai tourné 3 jours, hein, 2 jours. Donc vous voyez, je vais pas embêter les gens longtemps. Mais en fait, ça a été un déclencheur quand j'ai fait Grosse Fatigue, la bien nommée, qui a marché. Donc j'ai pris à Cannes et tout ça, pris le scénario. Mais je me suis écrit non seulement un rôle, mais 2 rôles. Alors là, je me suis dit, franchement, c'est pas possible.
Déjà, votre rôle est le rôle du sosie.
Et le sosie, oui. Déjà jouer. Et diriger en même temps, j'aime pas ça, mais jouer 2 rôles et diriger, je suis allé tellement trop loin que maintenant ça m'est passé ça.
Vous savez, en préparant cette émission, je me suis dit que chez vous, j'avais l'impression qu'un bon personnage, ça passait toujours par la question de savoir comment il parle.
Oui.
Sa langue, les mots qu'il emploie, tous les détails de son langage. Quand est-ce que vous avez pris la mesure de ça, justement?
Peut-être un peu instinctif. Alors je me compare pas à eux, hein, mais les grands dialogues de l'histoire du cinéma français. Il y a un truc qui est particulier en France. Les films français sont très bavards. J'ai tourné un film en Angleterre en anglais avec Daniel Auteuil en tant que réalisateur, et le type qui a fait l'adaptation des dialogues me disait mais ils parlent tout le temps vos personnages. Et peut-être que nous on parle tout le temps aussi, mais moi ça m'aide à les définir. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de la même manière. Charlotte Rampling est d'un certain niveau social, elle est anglaise, elle ne peut pas parler comme Karine Viard, qui n'a pas de sous, etc. Bon, il y a des jeunes qui parlent comme des jeunes, il y a une vieille dame qui parle comme les vieilles dames populaires de mon enfance à Puteaux, et c'est un hommage à ces femmes-là ces femmes et ces hommes que j'ai fréquentés pendant les 11 premières années de ma vie.
Et ça passe par l'écoute, l'observation,
oui.
Tout le temps.
Oui, oui. Oui, c'est vrai, oui.
Combien de réécritures pour les scénarios de Voyez comme on danse? Combien de versions?
Oh bah celui-là, il y en a eu 18, mais c'est parce que on attendait Karine Viard, qui tourne beaucoup, et elle n'était pas libre avant une certaine période. Moi, j'avais fini la 15e version, je me suis dit, bon, bah, on va relire, on peaufine et tout. Mais il y a un moment où il faut arrêter, il y a un moment où il faut le tourner, le film, parce que vous pouvez travailler 10 ans sur un scénario, et au bout d'un moment, c'est plus la peine de le faire.
N'empêche, ce que ça dit, c'est que vous aimez aussi prendre votre temps, 16 ans quand même, entre Embrasser qui vous voudrait et ce nouveau film, dans lequel on retrouve sensiblement la même bande, presque tous les personnages,
pas
16
tous,
ans après.
Oui, pas tous,
j'ai dit presque.
Oui. Non, mais je tiens à le dire pour des raisons qui ne tiennent pas aux interprètes, que je regrette énormément de ne pas avoir pu embarquer avec moi, mais parce qu'il y a des personnages dont j'avais l'impression que la nature même de leur histoire, leur parcours, tout ça avait une fin dans le premier, et donc enfin dans Embrasser. Et donc, comme je voulais pas faire une suite, c'est-à-dire être répétitif, rejouer un personnage de jaloux, refaire jouer à Vincent Elbaz, qui était magnifique, un personnage de dragueur quasi enfin pathologique, enfin voilà, tout ça, loudoyon, machin. Et je leur ai écrit une lettre à tous en leur expliquant pourquoi je ne pouvais pas écrire pour eux dans ce film-là, parce que sinon j'allais faire une redite.
Et puis, c'est passé du temps, Michel Blanc, 16 ans après. Dans quelle France est-ce qu'ils vivent, vos personnages?
Bah, j'espère dans la nôtre.
Ça a un peu changé. France, j'ai l'impression, où les inégalités sociales se sont creusées.
Oui.
C'est ce qui frappe.
Oui, mais il y avait déjà une belle inégalité entre la situation de Karine Viard et Denis Podalydès dans le premier, qui était quand même dans un camp de camping avec une caravane, alors qu'il prétendait être dans un hôtel super, et que Charlotte Rampling avait une suite à l'hôtel Westminster au Touquet. Donc il y avait déjà ça, mais ça ne s'est pas arrangé pour Karine. Enfin, elle a suivi la dégradation des classes en difficulté, disons.
Et puis pour tous ceux qui connaissent votre cinéma, Michel, ce film confirme une hypothèse que je m'étais déjà formulée il y a 24 ans. Enfin, pas l'innocence, ça va.
Non, mais quoi ?
Une obsession pour une certaine Carole.
Ah. Moi, j'aurais bien aimé avoir un pénis, une heure ou deux. Ça doit être amusant. Je me suis toujours demandé quel effet ça faisait quand...
Vous voulez dire quand ils...
Quand ils jouissent partout, comme ça. J'aimerais bien avoir un orgasme masculin, juste une fois, comme ça, pour voir.
Dites donc, Carole Bouquet, vous auriez pas comme l'intention de vous taper un comique, par hasard?
La réponse vous suffit, il faut que je développe.
Non, ça va, c'est clair.
Parfait. Maintenant, vous allez me faire le plaisir de prendre une douche, de vous habiller, et de laisser tomber votre numéro de sous-Woody Allen Franchouillard, parce que moi, les clowns angoissés, je trouve ça chiant.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas un hôtel, ici, c'est un bar.
Non, mais Minou, c'est momentané, tu sais.
Je comprends bien, ta maîtresse a viré aussi.
Ah non, c'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles.
Pourtant, il n'y a pas beaucoup de prises.
Mais ça, c'est dans le dernier, la dernière.
On l'entend, Carole Bouquet, dans
mais
Grosse Fatigue.
Juste un petit détail, vous voyez, je reçois une énorme baffe dans Grosse Fatigue, dans l'autre, je crois qu'elle me frappait aussi, dans Embrasser. Et là, elle m'a quasiment assommé à coup de sac.
Mais c'est une relation pour le moins suspecte.
Ouais. C'est une relation très intense.
Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez chez une comédienne ou un comédien?
Oh, ce que j'aime, c'est la... Évidemment, ce sont toutes des très grandes comédiennes. Alors, ce qui peut me faire avoir un intérêt, me stimuler quand j'écris, c'est de sentir que on va à l'encontre parfois de la première image immédiate qu'elles peuvent dégager. Carole, l'histoire, vous êtes une femme froide, c'est ce que tous les gens disaient. Carole Bouquet, elle est magnifique, mais elle a une espèce de froideur, tout ça parce qu'elle était belle et tout. Alors que dans la vie, elle l'est pas. Elle est passionnée, elle adore faire la cuisine, elle adore bouffer. Enfin, vous voyez. Donc ça, c'est la complexité de la personnalité des gens, parce que à ce moment-là, on peut leur faire jouer des choses plus intéressantes que la banalité qu'on peut ressentir en les regardant.
Mais il faut faire attention aux mots que vous leur faites dire à vos personnages, j'ai l'impression. Parce qu'on l'a entendu dans Grosse Fatigue, où elle joue son propre rôle, vous lui faites dire quelque chose de vous et de votre cinéma. En quoi êtes-vous, pour reprendre ces mots, un Woody Allen franchouillard? Alors comme ça, ça peut faire très peur.
Sous Woody Allen franchouillard.
Ça peut faire encore plus peur.
Non, c'est parce que je sais bien que dans la tête de certains critiques de l'époque, quand j'ai écrit ça, c'était c'est pas très intéressant, c'est un franchouillard, et c'est pas parce qu'il est névrosé qu'il a du talent, et c'est pas parce qu'on est névrosé qu'on est Woody Allen, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc c'était un petit règlement de compte avec moi-même et puis avec les gens qui me disaient ça. Quoi.
Pour autant, ça parle aux cinéphiles que vous êtes. En quoi un film comme Annie Hall, par exemple, a changé votre vie?
Annie Hall, c'est j'ai découvert comment quelqu'un qui pouvait se servir de ses névroses, de ses angoisses, etc., pour faire rire. C'est-à-dire non plus pour faire rire physiquement par des, j'en sais rien, par des culbutes, par quelque chose qui vient de l'intérieur et par la manière dont il l'exprime dans les dialogues. Et ça, c'est en regardant Annie Hall. En plus, il n'y a pas que des choses drôles dans Annie Hall, c'est très touchant aussi. Et quand j'ai vu, j'avais pas trouvé ma manière de faire rire avant de voir.
Comment vous faisiez rire alors?
Je faisais pas beaucoup rire quand on était au Café Théâtre. Junio faisait pleurer de rire la salle, Clavier aussi, tout ça. Et moi, parfois, j'obtenais un petit rire, un petit sourire. Et je n'avais pas trouvé le personnage, je ne savais pas comment m'exploiter.
Vous vous souvenez quand vous avez découvert votre potentiel comique?
C'est quand j'ai commencé à écrire des personnages sous Woody Allen, un franchouillard, c'est-à-dire Jean-Claude Duss, en l'occurrence.
Qu'est-ce que vous trouvez drôle, vous, dans la vie?
Oh, plein de choses, plein de gens.
Des gens, ouais, des personnes.
Ah oui, des artistes, des comédiens, voilà, ça, je trouve ça drôle. Il arrive dans la rue aussi qu'on voit des choses. Vous vous dites, oh ça, j'aurais tellement aimé le filmer, ou qu'est-ce que c'est incroyable, des réactions de gens, des répliques de gens. Bon, ça passe devant vous comme ça, mais bon, il y a aussi des choses pas drôles du tout. Alors, parfois, on a tendance à être un peu, obsédé par ce qui est vraiment pas drôle. Et en ce moment, il y a matière à être un peu inquiet, je trouve.
Oui, d'autant que derrière la légèreté de votre film, il y a quelque chose de sujets qui n'ont rien d'amusant. Le déclassement, la précarité, la peur de l'abandon, la solitude.
Je n'ai pas du tout eu ça comme moteur. J'ai eu comme moteur faire rire les gens le plus possible avec des personnages qui sont dans une telle situation, pour des raisons diverses et variées, que ils dansent, vous voyez comment on danse, mais ils dansent sur des braises. S'ils s'arrêtent de danser, les pieds brûlent. Donc c'est un peu ça l'idée de « Voyez comment on danse ». Ils sont embarqués dans une farandole un peu infernale pour eux.
Vous savez qu'il y en a une qui nous embarque tous les matins dans une farandole infernale, c'est évidemment la culture, Michel, dans cette émission. Et son actualité qui n'est absolument pas anxiogène.
Non.
Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 2 octobre?
Le plus grand péché sur Terre, c'est la lâcheté.
Je ne sais pas.
Je ne vois pas l'intérêt d'avoir des principes si on n'est pas prêt à souffrir ou à mourir pour eux.
Non, je n'ai rien oublié de la situation d'Oleg Sentsov en soutien au cinéaste ukrainien qui a cessé de s'alimenter depuis le 14 mai dernier. La Cinémathèque organise ce soir une projection de son premier film, Gamer. Le cinéaste de 42 ans a été condamné, on le rappelle, en 2015 à 20 ans de prison à l'issue d'un procès qualifié de stalinien par Amnesty International. Depuis des mois, responsables politiques et artistes appellent à sa libération. Sans succès pour l'instant, on ne lâche rien. Emmenez-moi au Festival de Marne. La 32e édition de la manifestation s'installe pour 3 semaines dans 22 villes du département. Concert à petit prix, plaisir tout compris. On attend notamment Mieux Sec à Villeneuve-Saint-Georges, Grand Corps Malade à Cachan ou Les Négresses Vertes à Alfortville. Et sinon, Le Refrain des Gamins propose 15 concerts pour les enfants de 7 à 77 ans.
En fait, dès la première collection, dès le printemps-été 1962, il livre une vision assez personnelle des manteaux de Maharaja, des manteaux des princes indiens. C'est vraiment sa vision rêvée, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé l'Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent.
Formidable, l'Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent, première expo thématique proposée par le musée parisien, entièrement consacrée au grand Yves, qui ouvre aujourd'hui réinterprétation de manteaux des souverains chinois, kimonos japonais. L'événement rassemble une cinquantaine de modèles haute couture, mis en dialogue avec des dessins du maître et des objets d'art asiatique. C'est chic. Just look over your shoulders, honey.
a minute.
Il faut savoir que 8 titres inédits de Kendrick Lamar ont fuité sur la toile. Le mini-album titré Bad Kill Chill City réunit des morceaux issus de sessions d'enregistrement des précédents opus du rappeur culte de Compton. On y trouve notamment Look Over Your Shoulders, un titre en collaboration avec Busta Rhymes et Michael Jackson, Come On! Et un spécialiste de Kendrick Lamar ce matin, Michel Blanc, invité.
Pas vraiment, non.
Désolé. Pour voyez comme on danse ce film choral où on retrouve en grande partie, on le disait, la troupe que vous aviez réunie dans Embrasser qui vous voudrait, Carole Bouquet, Karine Viard, Charlotte Rampling notamment. Et je me demandais ce mot troupe, qu'est-ce qui vous évoque à vous?
Et quelques nouveaux, non négligeables, dont Jean-Paul Rouve et William Lebguil, qui sont deux acteurs que j'adore, qui sont des amis, avec qui j'ai fait 3 films, c'est le 3e. Dans des circonstances différentes. Le premier, c'était Jean-Paul qui dirigeait. J'ai rencontré William sur le plateau. Ensuite, on a fait Aladdin en tant qu'acteur tous les trois. Et puis là, on a travaillé ensemble et je les adore. Et je voulais justement amener des nouveaux dans l'histoire de manière à ce que la comédie ne tourne pas en rond autour de la première version et que qu'il y ait de nouveaux personnages dans la tourmente qui sont en plus des acteurs sublimes et qui font vraiment, moi, ce qu'ils font ces deux-là me fait pleurer de rire, et pas seulement eux, mais franchement, chapeau.
Mais on l'entend, vous travaillez en bande, Michel, vous
pas
le dites
vraiment,
là.
Non, oui, non, c'est pas en bande, c'est que quand vous avez la chance d'avoir des amis, des gens très proches, qui en plus ont un talent formidable et qui vous bluffent, pourquoi diable refuser de leur écrire un rôle? Ça, alors là, c'est... Il y a des gens que je connaissais pas. Hein. Il y a Guillaume Labbé, il y a la petite Jeanne Guittet qui est formidable, qui joue la fille qui est née dans la... Pendant ces 16 ans, j'en ai profité pour que le personnage de Karine Viard soit enceinte et mette au monde dans une caravane derrière les poubelles de Jacques Dutronc parce qu'il veut pas qu'on les voit de la rue. Cette petite qui est à l'origine de pas mal d'emmerdements. Voilà.
Je me suis posé la question, Michel Blanc, qu'est-ce que c'est un metteur en scène pour vous? Je vous ai souvent entendu dire que c'était comme un chef d'orchestre.
Ouais, ça je le ressens tout à fait. C'est-à-dire dans sous deux aspects. Dans les deux cas de figure, vous avez une pièce, parce que voilà, ou bien c'est un scénario, ou bien c'est une symphonie de Brahms, ce que vous voulez. Il faut que le metteur en scène ou le chef d'orchestre ait une conception générale de l'œuvre. Œuvre pour mon film, je me permettrai pas de dire ça, mais pour Brahms, oui. Donc une conception générale pour qu'il y ait un seul ton dans le film, Et ensuite, il y a un rapport individuel. Alors, chez le metteur en scène, c'est avec chaque acteur. Chez le chef d'orchestre, c'est avec chaque partie. Il va demander au cuivre de jouer d'une certaine manière, aux cordes d'attaquer plus comme ci ou plus comme ça. Et ça, ça se ressemble. Ça se ressemble.
Ça veut dire que vous avez des acteurs qui sont des percussions, d'autres qui sont des cuivres, d'autres qui sont des cordes?
Oh, bah, ils sont tous capables de tout. Mais il y en a qui sont effectivement plus des cuivres.
Pensez à qui?
Elle a plus de nuances que simplement la force, mais Karine, c'est comme, d'un seul coup, une explosion de cuivre. voilà. Il y en a d'autres où ça va être des contrebasses, où ça va être des. Mais bon, la comparaison s'arrête là parce que.
Mais ça fait surgir.
On rit
quand
pas
même.
Généralement des contrebasses et des cuivres, sauf quand ils font des fausses notes, et c'est pas souhaitable.
Ça fait surgir la dimension musicale de votre cinéma, et je sais d'ailleurs que vous adorez les comédies musicales. Quand est-ce que cette passion est née? Avec quel film?
Tout petit, parce qu'à la télévision, à l'époque, on passait des films intéressants. Et
l'après-midi. Un petit message.
Non, mais le dimanche après-midi, vous voyez, on avait des trucs, par exemple, des films avec Fred Astaire, des choses comme ça. Et je trouve ça une élégance, ça avait de légèreté. J'adore ça. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si j'ai repris dans le film, il y a un petit clin d'œil. Dans la bande-son, il y a un moment. Alors, c'est pas Fred Astaire qui chante Let's Face the Music and Dance, parce qu'il la chantait sur un tempo un peu lent, alors ça donnait un côté nostalgique, donc on a pris la version de Nat King Cole, qui est plus swingante. Enfin bon, ouais, depuis tout petit.
Mais qu'est-ce que Fred Astaire, par exemple, vous a appris sur la manière dont on fabrique un film?
Ah, je sais pas. Non, non, mais par contre, il apprend beaucoup sur l'élégance.
Ouais.
Fred Astaire, c'est... Il y a des gens comme ça. Charlotte Rampling, elle arrive sur un plateau, elle est sublime. Elle est habillée d'une certaine manière, tout passe, on peut lui faire dire des choses. C'est élégant, c'est pointu, c'est, ça peut même être d'une délicieuse méchanceté. Elle peut le faire, et ça c'est formidable.
Et c'est vrai que dans votre façon de placer la caméra, de suivre, d'épouser les mouvements et déplacements des danseurs, moi je pense à la comédie musicale. En quoi réaliser un film, Michel Blanc, c'est toujours réfléchir à la façon dont vous la ferez danser, la caméra.
Parce que quand j'écris, moi, je pense souvent à la manière dont ça doit être tourné. Il se trouve que dans les comédies, et j'ai plutôt écrit ça ces temps-ci, il doit y avoir un rythme et un tempo vraiment extrêmement soutenu. Et donc, il n'y a pas de temps mort. Et d'autre part, il faut être avec les gens. C'est plutôt de la caméra à l'épaule que des longs travelling un petit peu lyriques qui conviennent très bien à la leçon de piano. Ou à, vous voyez, des films, des grands films comme ça, ou des films romantiques. Mais moi, c'est pas des films romantiques, c'est des films où j'essaie de filer des coups de poing tout le temps. Et là, pour ça, faut que la caméra aille chercher un truc. Et puis, là, puis au montage, on resserre. Voilà, c'est passionnant.
Alors, ça serait quel genre de danse? Vous voyez comment on danse?
Une multitude. En tout cas, une danse sur un tempo très très rapide. Hein. C'est plutôt dans les trucs genre saltarelle italienne ou farandole ou.
Vous dansez
Non, pas du tout. Alors quand je dis pas du tout, c'est mal.
Oh,
pas
Michel.
Du tout. Ah non, j'ai jamais aimé ça. Je suis très maladroit de mon pauvre corps.
Vous allez m'accorder une danse maintenant.
Non,
quand même.
Non, je ne pense pas.
Une petite, puis pas n'importe laquelle. Let's Face the Music and Dance, on en parlait. Nat King Cole, 1963. Vous êtes sur France Inter avec Michel Blanc. Vous écoutez Boomerang.
There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune. And then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance. The moon humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Let's face the music and dance.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Non, mais n'allez pas croire qu'il soit blanc comme neige non plus, hein, parce que derrière son air timide, bonhomme, inoffensif, se devine une malice qui pourrait bien vous jouer des tours. Sagement assis sur sa chaise, très attentif derrière ses lunettes, il n'en a pas moins l'air de mijoter un sale coup. La peau de banane sur le seuil de votre porte, c'est lui. Le sandwich au Saint-Nectaire dans le métro à une heure de pointe, c'est lui. Les salsifis à la cantine, c'est encore lui.
Ah, c'est bon ça.
Rien ne l'arrête. Regardez-le là, avec sa chemise à carreaux bleu marine et ses petites lunettes noires, Michel Blanc, invité de Boomerang ce matin pour son 5e film, je crois, en tant que réalisateur. Voyez comme on danse, on évoquait tout à l'heure votre passion pour les films musicaux.
Ouais. Et je peux faire une petite...
Vous interrompre
juste une seconde, parce que ça, c'est ce qu'on a entendu là, c'est très peu de temps à un moment important, à la fin du film, mais je suis surtout extrêmement heureux d'avoir eu l'autorisation d'un groupe de deux jeunes femmes qui s'appellent IBI.
Qui sont venus à ce micro, ouais, IBI.
Et qui vraiment sont absolument formidables, font une musique formidable et sont en train de faire un carton. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'elles m'autorisent à utiliser plusieurs fois dans le film ce qu'elles font.
Voilà. Et c'est notamment ce qu'écoute votre jeune héroïne.
C'est ce qu'écoute la jeune Eva.
Moi, j'ai envie de parler de votre amour de la musique parce qu'il est central dans votre appréciation et de votre appréhension du cinéma. Votre premier choc artistique, je crois qu'il a d'abord été musical et il paraît, j'ai lu, que votre tante avait des disques d'Aznavour, justement, mais qu'un jour, elle a acheté des disques classiques pour tester le nouveau son de sa stéréo et que c'est grâce à ça que vous êtes tombé dedans.
Exactement. J'ai toujours le disque. Il a été acheté j'avais 11 ans. Donc, c'est simple. Il y a la date d'achat. Non, j'avais 9 ans, pardon. C'est 61. J'avais 9 ans et, j'ai écouté parce que ça...
C'était quoi?
C'était un concerto de Mozart, le concerto dit jeune homme, parce qu'il était dédié à une pianiste qui s'appelait Mademoiselle Jeune Homme. Et puis une sonate, la fameuse sonate avec la marche turque comme troisième mouvement. Et je les écoutais en boucle.
Alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous les avez entendus pour la première fois?
Je sais pas. Je voudrais pas me comparer à Claudel, mais c'est mon pilier de Notre-Dame. Donc d'un seul coup, vous dites, ah, mais j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Et puis je l'écoutais. Puis après, j'ai commencé à me faire offrir des disques. Et
vos parents, comment ils ont pris cette passion pour le classique?
Ils ont été surpris parce que dans la famille, moi je suis d'une famille très modeste, dans les familles modestes, quand ils passaient une émission musicale le soir, mon père disait, il y a rien à la télé aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'était pas... ils ont dit, si t'aimes ça, vas-y, achète-toi des disques, etc.
Ils vous ont soutenu?
Ah oui, totalement. Oui. Il n'y a pas de raison. Si je leur avais dit j'aime bien la cocaïne, peut-être qu'ils m'auraient pas aidé pareil. Ah,
peut-être.
Quoique, ouais. J'en sais rien. Mais
quelles sont les valeurs qu'ils vous ont transmises, vos parents?
Ce sont des gens, comme tous les gens qui viennent d'un milieu, disons milieu modeste, parce que j'aime pas le reste, ça a toujours un côté méprisant ou, enfin bref, le travail. Ça, le travail dans la famille, c'est vraiment essentiel. C'est qu'il n'y a pas de, passez-moi le vilain mot, mais de branleurs. Mon grand-père a élevé 3 enfants dans des conditions en étant rescapé de 14, mutilé de guerre, etc. Il est devenu horloger. Il a élevé 3 enfants avec sa femme, avec des revenus très très modestes. Hein. Mes parents, ils ont commencé à travailler au moment où l'ascenseur social commençait à pouvoir démarrer. Donc ma mère, elle avait rien, aucun diplôme, hein. Et mon père non plus d'ailleurs. Et bon, finalement, elle a pris des cours du soir, elle est devenue comptable, et elle a fini chef comptable chez Lacoste. Donc c'était des époques magnifiques où quand on avait du courage, il y avait du travail. C'est-à-dire qu'on pouvait dire de quelqu'un qui travaillait pas que c'était un feignant. Maintenant, les gens qui disent ça sont des imbéciles, quoi.
Et vous vouliez être pianiste? Michel Blanc.
Oh, j'aurais aimé ça, oui, parce que quand j'ai découvert la musique, d'un seul coup, ça m'a... Mais j'ai toujours eu envie d'être acteur, même petit, mais je savais pas à quoi ça... Mais j'ai dit ça à mes parents, et puis mes parents, comme tous les gens de milieu modeste, disent « Oh, bon, tu sais, pour être acteur, faut avoir des relations ». Et nous, on n'en a pas. Alors moi, on n'en a pas. C'était comme si on m'avait dit on n'a pas de moto, on ne l'avait pas. Donc j'ai dit bon, je serai ingénieur électronicien.
De quelle vie vous rêviez, en fait,
tout simplement? La mienne.
Ah, c'est vrai?
Oh oui.
Vous avez tout réalisé?
Non, j'ai pas l'intention de me flinguer en me disant c'est fait. Donc il y a d'autres choses. Tout réaliser. J'aimerais continuer à progresser dans mon métier, à devenir un meilleur acteur, à devenir un meilleur metteur en scène. un meilleur auteur.
Et le piano, il est toujours là, quelque part?
Ben non, il est pas passé dans le nouvel appartement. Donc, donc il est actuellement dans un conservatoire allemand. Et je suis très fier que des jeunes, peut-être futurs grands pianistes s'entraînent sur ce piano qui a séjourné momentanément chez moi.
Vous jouez plus du tout?
Non, parce que j'ai une saloperie électronique. C'est tellement immonde que c'est dans un placard.
Et le cinéma, il arrive en fait à quel moment pour vous, Michel Blanc? Quel premier film?
C'est avec Que la fête commence de Tavernier. J'ai un petit rôle, hein, c'est une demi-journée de tournage. Mais on était au Café Théâtre à l'époque. Et c'est Rochefort qui était venu, parce que il était venu voir Thierry, parce qu'il avait réalisé une pub, Jean, et dans laquelle Thierry jouait.
L'ermite,
pardon, oui. Il est venu et il a dit à Tavernier, oh, tu devrais aller voir. Il y en a un, il s'appelle Blanc, il est baroque. Et l'autre, et il m'a engagé.
Voilà. Ça veut dire quoi, baroque, à votre avis?
Ah bah, pour Jean, c'était positif, il a une personnalité. Il n'est pas ordinaire physiquement et dans son attitude.
C'est beau ça, il n'est pas ordinaire, non?
Ouais, j'aime bien. Ouais.
Merci infiniment, c'est Michel
moi,
Blanc.
C'est moi.
Pas ordinaire d'être venu faire un tour.
Ah, mais je suis peut-être très ordinaire dans la vie, oui.
Je rappelle que Voyez comme on danse avec Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Karine Viard, Sarah Martin-Sanz,
qui joue un rôle très complexe et qui le joue magnifiquement.
Dont on ne dit rien, Michel.
Dont on ne dit rien. Voilà, Guillaume Labbé. Vous les avez cités peut-être tous, non?
Jacques Dutronc, Jean-Paul Roux, William Lebguil notamment, sort dans une semaine. Tout cela, c'est très très bien ficelé. Et tout de suite, on va entendre les médias. Sonia De Villers, juste après, La vie.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.
Les comédiens, Sonia De Villers et ses médias, l'instant M, vous m'entendez Sonia?
Très bien, Augustin.
Bon.
Salut, à demain.
À demain.